Bonsoir, je m'appelle Julien Rousset, très heureux d'animer cette rencontre avec Alain Mabankou. Vous avez 56 ans, si mes informations sont bonnes.
On avait dit qu'on ne donnait pas l'âge.
Ah, mais 56 ans, c'est encore jeune.
Vous grillez toutes mes cartes.
Vous êtes franco-congolais.
Oui.
Écrivain, essentiellement, mais aussi professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles.
Jusque-là, tout va bien.
Ouais, mais... Également producteur de disques, si mes informations sont bonnes là aussi.
C'était arrivé.
Ouais, on en parlera peut-être dans le courant de la conversation. Alors, j'ai fait quelques comptes. Vous avez publié une douzaine de romans, une dizaine de recueils de poésie, une dizaine d'essais. Parmi les titres qui font que vous êtes aujourd'hui un auteur connu et reconnu, on peut citer Vers cassé, paru en 2005, Lettre à Jimmy, Le sanglot de l'homme noir. Et pour vous présenter à ceux qui ici ne vous connaîtraient pas, je vais citer Dany Laferrière, qui dit de vous « Alain est un escargot littéraire qui se déplace avec son univers sur le dos et avance dans la vie tranquillement. » C'est une manière de dire que c'est votre fidélité au Congo, dont on parlera. Et deuxième citation de Dany Laferrière, « Alain, donc vous, montre que la littérature n'est pas que sacrifice, c'est aussi une joie. » Alain, on est la métaphore. J'ajoute que vous vivez entre la France, les États-Unis et le Congo.
Non, pas le Congo.
Non, pas du tout.
Voilà, France, États-Unis.
D'accord. Je pensais que vous partagez entre ces trois pôles. D'accord, mais c'est France et États-Unis. Et donc, on est rassemblés ce soir pour parler du commerce des allongés. Roman paru au Seuil, dont le personnage s'appelle Liwa. Alors, Liwa, c'est un jeune homme, cuisinier, à Pointe-Noire. Donc, Pointe-Noire, c'est la capitale économique du Congo. Liwa, il a la particularité d'être mort et en même temps d'être vivant, puisque à peine enseveli, il surgit de sa tombe et assiste à la veillée funèbre qui dure plusieurs jours. Il retrouve les gens qui ont compté dans sa vie et surtout, il fait connaissance avec les autres défunts du cimetière dans lequel il repose. À un moment du livre, le gardien du cimetière qui s'appelle Mamba. Lui dit dans un cimetière, il y a autant d'histoires que de tombes, et finalement, le livre propose de retracer certaines de ces histoires. C'est une galerie de portraits. Il y a un pasteur, Papa Bonheur. Il y a un personnage qui a eu un poste important en France, et le DRH Prosper Milandou, c'est ça.
Oui,
un personnage très important aussi, c'est la grand-mère de Liwa, Malembe. Et au-delà de ces portraits, c'est aussi une évocation du Congo de 2022. Alors, c'est vrai que la chose est qui nous étonne immédiatement quand on commence la lecture du livre, c'est que les morts et les vivants cohabitent. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle on est habitué ici en France.
Peut-être aussi, j'aimerais déjà saluer l'assistance. Ce n'est plus facile aujourd'hui de réunir des lectrices et des lecteurs comme ça, parce que on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de spectacles à voir, beaucoup d'écrivains à aller écouter, des émissions de radio qu'on n'a pas fini, et puis la marmite qu'il faut faire bouillir pour les enfants ou les petits-enfants qu'il faut ramener chez les petits-fils. Bref, on a toutes les raisons pour que la lecture aujourd'hui, quand vous avez du monde qui se déplace pour commencer par enlever les chapeaux, saluer et puis dire merci, c'est pour le triomphe de la littérature. Moi, je vis dans un monde, je viens d'un monde où il y a toujours dans chaque chose son contraire. Si l'eau est là, elle est chaude, il y aura aussi l'eau froide. Donc, s'il y a la vie, de l'autre côté, il y a la mort, mais il n'y a pas une frontière vraiment bien déterminée. Et donc, c'est ce que je voulais montrer dans ce livre, sans pour autant que ça soit une étude ethnologique sur la mort ou bien un catalogue des oraisons funèbres ou quelque chose dont il faudra entamer la lecture avec beaucoup de mouchoirs parce que les larmes vont couler. Non, je n'ai pas écrit un livre pour rappeler aux gens, bon, voilà, si vous avez quelqu'un qui est mort dans votre famille, lisez ce livre. Non, ce n'est pas une sorte de mode d'emploi pour pour pleurer ou mode d'emploi pour se consoler de la mort de quelque chose. Mais je voulais écrire une certaine fable. Je voulais écrire une histoire qui me rétablisse dans mes convictions d'être un Congolais, d'être un Africain, c'est-à-dire celui qui a reçu plusieurs formes d'éducation. L'éducation occidentale qui nous a dit « après la mort, il n'y a rien, on vous enterre, et puis voilà, hein, les termites vous mangent, et puis on passe à autre chose. » Donc on hérite, si tu as laissé une femme ou une voiture, parce qu'à l'époque, en Afrique, vous héritiez aussi de la femme, parce que c'était considéré comme faisant partie de l'héritage. Il a fallu du temps, parce qu'on avait compris qu'au fur et à mesure, il y a des frères qui tuaient leurs frères pour hériter non pas de la maison, mais de la femme. Donc voilà, on vous dit, oh, c'est sûr qu'il va se ruer dans la maison. Non, 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 il se rue vers la femme. Donc la maison, il vous laisse, mais lui, il avait calculé le crime qu'il avait fait, c'était pour simplement épouser la femme du grand frère ou du petit frère. Donc dans ce sens, la mort pour nous, c'est à la fois une sorte de joie, parce qu'il y a la libération de l'individu. C'est aussi une sorte de moment pendant lequel les gens du quartier vont se réunir et vont se livrer à des choses qui sont parfois qui agacent le cadavre qui est en train d'assister à tout. Parce que, hein, il y en a qui viennent, ils ont donné rendez-vous à leurs copines ou qui viennent. Voilà, on se peigne bien, on vient dans une veillée parce qu'on sait qu'il y a telle fille que je n'arrive jamais à croiser dans telle rue qui sera dans la même veillée. Et je vais en profiter à ce moment-là. On amène la nourriture en cachette, on mange. Certains dorment là où il y a un peu les ténèbres parce qu'on voit pas, mais le cadavre, il voit tout. Donc, il a l'œil partout. Donc, c'est dans ce sens que ce jeune homme, qui normalement, avec la mort, se serait libéré, mais n'est pas libre. Il faut qu'il comprenne les circonstances de sa mort. On ne meurt pas à 23 ans en Afrique. C'est que quelqu'un vous a fait quelque chose. Et il faut retrouver cette personne. C'est pour ça que vous allez assister un peu aux cérémonies qui entourent la mort de quelqu'un, aux cérémonies qui vont suivre pour aller en quelque sorte dire au revoir à tout le monde, et aussi à ces légendes qui expliquent que les gens quittent leur tombe pour revenir essayer de se venger quelque part. Sauf que ce personnage Liwa, quand il va surgir de sa tombe, eh ben, de même que vous avez les brèves de comptoir, quand vous êtes dans un bar, on vous raconte tous les piliers du bar, et là aussi vous aurez les brèves de tombe. Donc voilà, vous êtes là et chacun des défunts va défiler pour expliquer ses circonstances de la mort. Regarde, moi j'avais bien, d'où le DRH, le directeur des ressources humaines, qui est la personne la plus importante du cimetière. Et lui, il sera parmi les premiers à expliquer.
C'est le Google, voilà. Vous dites.
C'est le Google même, c'est le Google du cimetière. Il connaît la date de naissance, la date de mort, les circonstances, les moments, qui était là, etc., etc. Et donc, mon personnage va croiser un certain nombre d'individus qui, eux aussi, sont des vivants, presque des morts, mais ils ont la chance d'être...
Des personnages à part entière.
D'être dans l'autre... Qui vont le dissuader en se disant, ne va pas dans la ville maintenant que tu as ressuscité, parce qu'on sent que tu es pressé d'aller te venger. Donc, chacun va passer là pour lui dire, tu te calmes, ne prends ton mal en patience, etc. D'où la fameuse phrase de se dire c'est quand même curieux de tomber sur des gens qui sont morts et qui ne savent pas ce qu'il faut faire après. Donc ce type, on va passer le temps à lui le dissuader de le faire, mais il va finalement décider quand même, il doit retourner chez les vivants.
Alors oui, j'ai oublié de préciser en esquissant comme ça les contours de l'histoire, qu'il y a une histoire d'amour aussi. Et il y a une blessure, mais bon, ça, les lectrices et les lecteurs peut-être le découvriront en lisant le livre. Alors, vous avez utilisé le mot fable. Alors, justement, c'est une question que je voulais vous poser, parce qu'en effet, moi, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai lu le texte. Et il y a beaucoup de fantaisie.
Parce que je pense que c'est... Moi, je me définis rarement comme un romancier. Ça, on le fait juste pour aller plus vite. Moi, je préfère le terme de conteur. Je raconte, je compte. Parce que les histoires que je raconte viennent des légendes urbaines. que ce soit dans Petit Piment, Les Enfants de la Rue, que ce soit dans African Psycho. Le,
et de votre mère, je crois aussi. Si de votre maman aussi,
oui,
je crois.
Oui.
C'est elle qui vous a transmis.
Elle, elle est la mère et en quelque sorte la dépositaire des cultures africaines pour l'enfant. Donc c'est l'enfant, c'est la mère qui vous explique, qui vous décrit comment est un défunt. Quand il y a quelqu'un qui est mort, vous continuez à lui donner à manger, vous laissez une assiette dehors avec de la nourriture, peu importe que ce soit le chien du voisin qui l'ait mangé. On dira toujours que l'esprit, l'esprit du mort est rentré, parce qu'il faut bien que le mort puisse manger. Il ne va pas directement s'attaquer au gigot, il va passer par le biais d'un canidé qui va manger à sa place dans ce sens. Donc c'est pour ça que je me considère plutôt comme un conteur, puisque j'aime mélanger la féerie, j'aime mélanger le côté exagération, la fantaisie, plus dans le sens de l'humour que du sérieux, parce que moi j'ai lu beaucoup de livres sur la mort en Europe, c'est... Hein, faut être
oui,
un écrivain bien établi pour écrire la mort. Hein. Donc, ils ont les costumes cravates, ils écrivent en noir, tout est bien. Voilà, l'écriture aussi emprunte les sentes du deuil. Moi, non. Quand j'écris sur la mort, je vais avec des pantalons déchirés. Voilà, je la prends telle qu'elle est. C'est pour cela que les premières scènes, c'est quelqu'un qui est en train de corriger les fautes d'orthographe dans les tombes.
Oui, voilà. Et alors, vous parlez des pantalons déchirés. Il a un look très particulier, Liwa.
Parce que c'est un sapeur, comme on dit à l'époque. Hein, c'est-à-dire celui qui aime, qui pratique la
société. Un look très flashy, des couleurs très vives.
Ça s'appelle la SAP.
La SAP, d'accord.
Société des ambianceurs et des personnes élégantes.
Oui, c'est ça.
S-A-P-E. Donc, c'est les années 80, 70. Donc, vous voyez, il a cette veste... en crêpe qui est orange, la chemise verte, le nœud papillon un peu en crème, la chemise a des manches arrondies. Hein. Plus il met des boutons sur les revers. Les chaussures sont des salamandères à tripes semelles, rouge vernissé. Le pantalon, il est violet. Bref, les couleurs que je porte en général.
Que j'ai
transféré au personnage. Parce que la mort, qui a décidé qu'on devait être en noir pour aller dans le deuil? Je sais pas. Au Cameroun, le deuil, c'est bleu. Il y a des pays, c'est blanc. Mais tout d'un coup, quand on vient en Europe, moi, j'étais allé un jour à un enterrement. Quand je suis arrivé, toute l'assistance est détournée du cadavre pour me regarder arriver parce que j'avais une couleur. On dit, mais il s'est trompé ou quoi? Mais même chose aux États-Unis, j'avais une... J'ai une amie arménienne, son père, c'était mon dentiste, depuis longtemps. Et tu sais, les Arméniens, ils sont très, très, très familles. Hein. C'est-à-dire que sa fille, je crois, n'avait pas de papier, et j'avais tout fait pour que sa fille vienne quand même à l'université, rentre sous des conditions un peu kabbalistiques que j'avais pu arranger, et la fille était rentrée dans ma classe. Donc j'étais comme devenu comme les tuteurs.
Ouais.
Et tous les jours, la famille piaffait d'impatience pour connaître, mais c'est qui ce monsieur qui a aidé notre fille à avoir une... Et bon, un jour, je suis allé dans leur banlieue là-bas. C'est vraiment tout un quartier, que des Arméniens. C'est comme aux États-Unis.
Ouais,
vous avez les Arméniens là, vous avez les Éthiopiens de l'autre côté, vous avez le quartier des Iraniens, vous avez le quartier juif. Donc c'est... J'arrive, tout le monde... se connaissait. Donc, quand j'étais arrivé, on m'a dit, le professeur noir de notre fille va arriver. Donc, tout le quartier était là, on a fait de la nourriture et j'ai appris qu'il était dentiste. Et là, il m'a dit, tu payeras plus pour les dents jusqu'à ta mort. Voilà. Et il m'a amené là, je prenais des soins, mais je ne savais pas qu'il avait le cancer. Et quand il est mort, et moi... j'étais aussi éploré que la fille, parce qu'il était là, faut s'occuper de ma fille, faut l'aider à continuer. Jusqu'alors, c'est moi le directeur de thèse de la fille. Elle fait une thèse, c'est pas sur l'homosexualité, ce Proust, avec un truc africain que j'ai mélangé dedans. Hein? Est-ce que là, on peut trouver des éléments africains sur Proust et tout ça là, donc, et le jour de la mort... Moi, j'allais pas me mettre en noir, je savais pas. J'étais en rouge. tout en rouge. Donc, je suis arrivé là-bas. J'avais, voilà, au cimetière. C'était loin. Il fallait s'éloigner de Los Angeles, au moins une heure de conduite. Mm-hmm. C'est vraiment au cimetière des petits bourgeois, de l'autre côté. Je suis arrivé et il y avait une foule d'Arméniens. Ils étaient tous en noir. J'ai vu qu'ils pleuraient comme nous, en se roulant par terre. Le cadavre, le père était de l'autre côté. Et moi, j'arrive, je m'arrête un peu au-dessus, je garde ma voiture. Et ils ont vu un noir en rouge descendre, débouler vers leur veillée. Mm. Et ils se sont retournés, ils se sont tournés tous là. Mm. Et la fille, tant bien que mal, allait expliquer, non, c'est mon professeur à UCLA. Et on m'a laissé aller, je suis arrivé là. Les femmes qui pleuraient ne pleuraient plus, puisqu'ils voyaient, ils voulaient comprendre. Hein, donc, ils pensaient que j'étais le mari de la fille, mais non, on a dit non, 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 sinon on aurait fait le mariage, vous aurez vu. Donc, du coup, j'ai compris que les codes de couleurs dépendent. C'est pour ça que lui, ce personnage, il meurt avec des couleurs solaires, parce qu'il veut ramener la vie de l'autre côté, alors que nous, les êtres humains, on a tendance toujours à vouloir endeuiller ce qu'il y a de l'autre côté, alors même que c'est nous qui restons avec le cortège des problèmes. C'est nous qui devrions rester ici dans nos problèmes de noir. Non, non, non. Le mariage est souvent coloré. Pourquoi vous voulez que la mort soit toujours noircie dans ce cas-là? D'où cette sorte de couleur que j'ai mise là, et je suis content que l'illustrateur qui est Loustal, qui est l'un des plus grands illustrateurs français,
oui, il est fidèle à votre bonnes...
voilà. Loustal, lui, il a lu les livres, il a mis ce bleu de nuit de l'ensemble et ses couleurs solaires. Quand j'avais vu ça, j'avais dit au seuil, ne corrigez même pas parce que il a vu ce que je voulais dire.
Et tout à l'heure, vous nous avez dit que. Dans votre travail d'écriture, vous souhaitiez vous rétablir dans votre identité de Congolais. Oui. Est-ce que vous avez senti que vous en étiez éloigné?
Non, pas éloigné, mais je pense que le livre le plus ancré dans ce que je considère comme mes cultures africaines, c'était « Mémoire de Porc-Épic », que j'avais publié en 2006. C'était vraiment... l'association, puisque dans nos conceptions, c'est que un être humain naît, vient au monde avec son double animal. Ils vont mourir le même jour, ils sont nés le même jour, et donc l'animal doit tout faire pour ne pas être attaqué, parce que si on tue l'animal, l'homme meurt. Si on tue l'homme, l'animal meurt. Sauf que, cette fois-ci, par un concours des circonstances, c'est l'homme qui était mort, et l'animal attendait sa mort, mais la mort n'est jamais venue. Donc, il a dit, en attendant, je vais raconter le type de relation que cet homme et moi, nous avions. Et on a compris que cet homme utilisait cet animal pour faire du mal. Il avait fait 99 forfaits. Et au centième, quand il voulait faire le centième, il voulait s'attaquer aux jumeaux. Et c'est là que sa mort était survenue. Donc, c'est Porc-Épic a raconté les civilisations en tant que terre, les conceptions que nous avons, les étranges comportements que l'être peut avoir contre les animaux, les autres êtres. Et ici, en venant dans le commerce des allongés, j'avais l'impression de prolonger cette causerie littéraire que j'avais interrompue avec Mémoire de Porc-Épic, puisque j'avais intercalé plutôt des romans urbains, Petit Piment, Black Bazar, ou même. Et puis j'étais rentré dans la veine de l'explication, ou presque du déroulement de mon enfance, avec des livres comme Demain j'aurai 20 ans, des livres comme Lumière de Pointe-Noire, Les cigognes sont immortelles.
C'est toujours au Congo.
Voilà. C'est toujours au Congo, et en général, Pointe-Noire. Parce que moi, je veux garder un espace d'enracinement, et c'est Pointe-Noire. Je vais faire de Pointe-Noire le lieu urbain le plus connu dans la littérature congolaise. Et si Dieu le veut, dans la littérature peut-être africaine. Et si les dieux le veulent, peut-être dans la littérature du monde. Mais là, ça ne dépend plus de moi parce que la compétition est rude.
Parlez-nous un peu de Pointe-Noire, c'est une ville côtière.
C'est une ville côtière qui a une... histoire un peu sombre aussi, parce que c'est par là que sont arrivés navires des négriers qui faisaient l'esclavage. C'est par là qu'ils sont arrivés et c'est par là que les Noirs sont partis pour aller vers des destinations sombres et pendant cette traite négrière qui est aussi dont l'histoire est également liée ici, hein, parce qu'on est au cœur de. C'est pour ça que je remercie Monsieur Mola de m'avoir offert ce livre très édifiant sur qui parle un peu de la présence noire dans cette ville et qui rentre dans le cadre même du presque du documentaire que j'avais fait pour France 2, Noir en France, pour l'explication apaisée des choses. Et les gens savent que quand je parle de ces choses, je ne suis pas celui qui tape du poing sur la table, je suis plutôt celui qui essaye de comprendre le sens de cette rencontre et de faire de sorte que les enfants comprennent notre histoire et non pas se transmettre la haine.
Et donc,
des livres comme Le commerce des allongés sont des livres qui sont là pour continuer le discours qu'avait commencé le monde occidental. Le monde occidental était arrivé en Afrique, avait donné sa version de l'Afrique, avait donné sa version des traditions, sauf que c'était une vision lointaine. Ils n'étaient pas à l'intérieur de l'œuf. Ils apercevaient le contour de l'œuf, alors même que le meilleur était à l'intérieur. Quand vous allez dans un endroit, il y a un cocon, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Ils ne pouvaient pas entrer là-bas parce que tout le bagage qu'ils avaient disait toujours que c'est des sauvages. Il n'y a rien à apprendre là-bas. Ils sont dans les ténèbres, nous devons les civiliser. Alors même que si on était entré à l'intérieur de cette culture pour comprendre comment nous percevons la mort, quelles sont nos croyances, quelles sont nos méthodes pour repousser les forces maléfiques et comment parfois nous sommes prisonniers de certaines croyances qui détruisent le continent. D'où les questions peut-être de ces églises, de ces
gourous. Parce que le livre, il est très joyeux, mais il a une forme d'âpreté aussi, parce que vous abordez des questions sensibles et douloureuses. Par exemple, le sacrifice des albinos. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
C'est terrifiant. Ça, la plupart de... Beaucoup d'Africains le savent, parce que ce qui est différent inquiète toujours. Ce qui n'est pas comme nous, eh ben on justifie, on trouve toujours des justifications pour l'écarter. Par exemple, quand il y a eu le génocide au Rwanda en 1994, pour écraser les Tutsis, les autres essayaient d'expliquer que c'était des cafards, c'était des cancrelats, et qu'on pouvait écraser et qu'ils n'étaient pas des individus, c'était pas des personnes humaines. Et en général, dans chaque génocide, on utilise toujours une sorte de baissière. On essaie de chosifier ou d'animaliser l'individu pour que celui qui va commettre le génocide n'ait pas le remords de retirer la vie. Si on vous dit à l'époque qu'un noir, c'est pas un être humain, eh ben le petit blanc qui va le taper, il a l'impression qu'il est en train de bastonner un margouilla. Donc, mais si on lui dit que c'est un être humain, le discours change. Parce que c'est ça, vous êtes devant une piscine, quand quelqu'un est en train de se noyer, peu importe la couleur, vous allez chercher les méthodes pour le sauver, à moins que vous soyez un lâche. Même si vous ne savez pas nager, vous allez au moins hurler pour que les gens qui sont de l'autre côté viennent ou vous lancez quelque chose. Donc, moi, je pense que dans ce livre, ce qui m'importait, c'est d'enlever l'aspect plutôt d'une Afrique exotique qu'on avait vu dans ce sort, mais de voir l'Afrique dans ses réalités où parfois ce sont les individus africains eux-mêmes qui sont en train d'oppresser leur population. Et vous voyez comment, par exemple, la ville est prise d'assaut plutôt par ceux qui sont les capitalistes noirs.
Oui, le comme business. Et il y a aussi une critique de la tartufferie des religieux à travers la figure de Papa Bonheur, qui a un pasteur qui se comporte pas du tout dans sa vie comme conformément à ce qu'il préconise.
Oui, bien sûr. Il y a comme ça des postures qu'on ne comprend pas. Le pasteur est censé apporter une certaine sérénité et tout d'un coup, vous allez apprendre qu'il a engrosser au moins une quinzaine d'adolescentes dans son église, qu'il tire ses pouvoirs du sacrifice des albinos, ce qu'on appelle les crimes sacrificiels, ouais. Parce qu'il y a une légende qui dit que le foie ou les poumons de l'albinos en poudre va entraîner des pouvoirs, etc. Donc on le fait, un peu comme... la légende, quand vous allez aux Antilles, il y a un bois qu'ils appellent le bois bandé. Il paraît que ça va donner aux hommes des pouvoirs surnaturels. Quand vous rentrez dans la forêt, tous ces bois-là, c'est l'écorce. C'est parti, hein. Les gens ont pris les écorces. J'ai dit, mais voilà. Hein. Donc, il y a un commerce souterrain. De la même manière, ce pasteur, il a des gens qui vont chercher les albinos dans la ville. Et... vous pensez pas que c'est pour leur rendre service, mais c'est en fait pour les sacrifier. Mais il n'y a pas que ça, puisque derrière aussi, les paralytiques. À l'époque où moi j'avais une dizaine d'années, il y avait des légendes selon lesquelles le président du Congo du Zaïre de l'époque, qui est aujourd'hui Congo démocratique, mettait tous les paralytiques dans l'avion pour aller les jeter dans le fleuve pour avoir du pouvoir. Donc si vous boitez...
C'était une légende ou c'était...
C'est ce qu'on nous racontait chaque fois. Donc, les paralytiques avaient toujours peur. Hein. Donc, quand vous avez un frère paralytique, il ne pouvait pas sortir seul. Il y avait toujours deux musclés qui l'accompagnaient parce qu'il y avait effectivement des disparitions comme ça, des handicapés. Où vous arrivez, il n'y a plus que le fauteuil, et le gars, il a disparu. Parce que le fait qu'on entende que le président qui a le pouvoir l'a fait, eh ben, le petit candidat à la mairie, il va faire la même chose. Le cas, par exemple, vous voyez comment ici, il y a un maire qui a sacrifié sa nièce et son neveu qui étaient des jumeaux à cause de parce que la réputation c'était que les jumeaux ont un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir, si vous l'utilisez à votre propre fin, eh bien, ça vous donne quelque chose. Donc il faut bien que ces choses aussi trouvent leur place dans les narrations que nous sommes en train de faire. Que nous retrouvons cette sorte de réalisme romanesque. Le roman n'est pas simplement du pain beurré, on met un peu de cerise ou je ne sais pas quoi, et qu'on mange au petit déjeuner. De temps en temps, c'est bon, et tout d'un coup, il y a du piment à l'intérieur.
Voilà. Et vous disiez, donc, à Pointe-Noire, il y a beaucoup de business.
Oui.
Et comment aujourd'hui on a le Congo? Alors j'ai vu qu'il y a 5 millions d'habitants, c'est ça?
Oui, oui. Ouais. Mais moi, à l'époque où j'étais là, on était 2 millions et demi, 3 millions. Donc, et en face, le Congo démocratique, ils sont presque 80 millions. Donc vous voyez, il y a deux Congos qui en réalité formaient le Royaume Congo, qu'on avait divisé pour des raisons coloniales. Les frontières, vous savez que nous avons en Afrique aujourd'hui, c'est pas les Africains qui s'étaient levés le matin, on dit « bon ». Il faut qu'on dessine une belle carte pour la postérité. Chacun va avoir son pays. Non, c'est les Européens en 1884-85 qui avaient décidé de faire le partage de l'Afrique pour éviter une guerre qui allait se faire entre la France et la Belgique, puisque la France avait envoyé des explorateurs pour aller chercher des terres et le chef des explorateurs s'appelait Savourgnan de Brazza. De l'autre côté aussi, la Belgique avait envoyé un explorateur, hein, Stanley, qui est donc l'explorateur des Belges était d'origine anglaise, l'explorateur des Français était d'origine italienne. À l'époque, explorateur, c'était un métier. Hein. Je pouvais être grec et explorateur et offrir mes services à la France. Je veux vous trouver des terres. Donc les gens sont allés là-bas, sauf que l'explorateur français et l'explorateur belge sont arrivés tous les deux au même moment sur le bord du fleuve Congo. Donc, l'explorateur belge dit que c'est la terre des Belges. L'explorateur français dit non, c'est la terre des Français. Et entre les deux capitales, ça s'est lancé les noms d'oiseaux. Hein. Voilà. Surtout que l'autre parle en wallon. Non, moi, je parle en français. Et puis, hop. Voilà, Bismarck, hein. L'Allemand, elle a dit, oh, calmez-vous là. On ne va pas se battre. On se calme. Venez à Berlin, on va en parler. Donc, normalement, on était à Berlin pour séparer un peu le Belge et le Français qui se battaient. Mais au même moment, les Allemands ont dit, on va en profiter pour éviter des querelles comme ça. On s'entend et on va se partager le gâteau. Donc, on a posé une carte et on a commencé à dépecer. C'est pour ça que nos pauvres Congolais de Brazzaville se sont retrouvés loin des autres. Voilà, on dit bon, toi le Français là, tu voulais ce territoire, oui, on te donne là. Il dit mais c'est petit. Il dit mais il y a le pétrole là-bas. Ah bon, d'accord, je le prends. Et bon, puis on voit sur les Belges, le Belge dit ah mais c'est grand, mais il y a que des forêts, des serpents. On dit non 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 non, il y a tout là-bas, il y a des minerais, il y a des trucs comme ça. Et voilà, on s'est partagé. Je fais caricature. Hein. Mm-hmm. Ils se sont partagés les territoires et on a appelé Congo belge. Et Congo français et les colons, voilà, ont évité la guerre. Mais entre temps, des pays comme le Congo et le Gabon, quand vous mettez une frontière, il y a l'oncle qui se retrouve gabonais et la tante qui est restée congolais. Donc d'un coup, la même famille avait deux nationalités différentes. On parle la même langue, par exemple le Congo démocratique, et nous on parle la même langue. Ce que je raconte dans ce livre là, si un quelqu'un de la RDC, il l'ouvre, il est dedans. Mm-hmm. Mieux encore, quelqu'un du Cameroun, du Gabon, de ce qu'on appelait le bassin du Congo. Mm. Parce que c'était le grand royaume du Congo avec des différences à gauche et à droite selon l'éloignement que vous avez du fleuve ou de l'océan Atlantique. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de querelles que nous avons héritées du fait simplement du partage de l'Afrique, alors même que nous sommes en réalité issus d'une racine qui était la même. Mmh. Voilà. Donc le rôle de l'écrivain aujourd'hui, c'est aussi de se fonder sur ses croyances qui étaient avant même la période coloniale pour exposer une autre Afrique, pour donner aux autres quelque chose à regarder que l'image des guerres civiles que nous avons, des dictatures que nous avons, des vols d'argent qu'on ramène en Suisse, etc., etc.
Alors justement, à propos de la littérature et de l'Afrique, on a l'impression qu'il y a un nouveau regard aujourd'hui auquel vous contribuez, évidemment, parce que vous êtes connu, et parce qu'en plus, vous parlez souvent de la littérature africaine. On en reparlera peut-être, notamment au Collège de France, en 2016, un moment qui était important dans la vie intellectuelle. Mais il y a Mohamed Mbougarsa, qui a eu le prix Goncourt, David Diop, le Tanzanien Gurna, qui a eu le prix Nobel. Les choses sont en train de changer.
Oui, je pense que c'est une évolution, somme toute, normale. Il y a des changements qui nous passent entre les mains parce qu'on ne les voit pas, parce que le retentissement n'est pas forcément le même. Il y a des choses qui se passent, des gens qui occupent des postes très importants. Que dans mon film, par exemple, Noir en France, j'avais sorti le portrait de Madame Elouette, qui était un personnage important de la Cour des comptes en France. Mais personne ne la connaissait, elle est d'origine congolaise. Elle, vous fermez les yeux, elle parle, vous pensez que c'est une caucasienne normale qui est en train de parler, mais parce qu'elle a été... Elle a la rigueur de l'école française, le côté coincé des grandes études supérieures qu'on a fait, l'ENA, tout cela, hein, un peu à la Pape Ndiaye, quoi. Donc, vous avez cette sorte de... Voilà, ils ont fait l'école française. C'est-à-dire que c'est des Français, c'est leur pays. Ils n'ont que la couleur de peau par accident géographique ou historique. Mais c'est des Français normaux, hein, voilà, qui pensent. Et à eux, faut pas leur parler de tel territoire. Pape Ndiaye a vu l'Afrique la première fois quand on est allé ensemble pour étonnant voyageur qu'on faisait à Bamako. Ces jours-là, il était la première fois. Je me rappelle, il y avait Pape Ndiaye, j'étais avec Dany Laferrière, Pape Ndiaye, Laurent Godet. Pape Ndiaye et Laurent Godet voyaient l'Afrique pour la première fois. Alors que Godet avait eu le Goncourt en parlant de l'Afrique, hein, des choses, de Tchongor, des trucs. Mais il dit, mais ton livre, il dit, non, 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 j'ai regardé les encyclopédies. Et c'était la première fois. Donc, même quand on préparait le poulet bicyclette, les gars, ils tenaient... voilà, poulet bicyclette, c'est... Vous savez, il y a deux sortes de poulets en Afrique, le poulet télévision et le poulet bicyclette. Télévision, c'est quand vous mettez le four à micro-ondes parce que vous regardez à travers la vitre. Et bicyclette, c'est avec le feu dehors, on tourne la manette, ça fait... voilà. Donc j'avais dit à Pap Ndiaye et Godet, venez, on va manger pour les bicyclettes dans la rue, avec des mamans, tu vois, la bouillie, tout, là, c'est vous êtes sûr que l'hygiène, non, venez, venez. Donc ils ont fait le français moyen, quoi, l'hygiène, les conditions, j'ai dit, mais on a grandi là, on est là, on n'est pas mort, j'ai dit, vous n'allez pas, oui, mais quand même, j'ai pas amené les doliprane, j'ai dit, non. Et puis on a commencé à manger. Mais le lendemain, c'était les deux qui me disaient eh, « On ne peut pas aller essayer sur l'autre. J'ai vu un truc, une pâte, là. » J'ai dit « Oui, c'est du foufou. Oui, le foufou, je veux manger ça. » Ils ont mangé. Il y avait Jean-Roi aussi. Oui, Jean-Roi aussi qui était là. Et le mieux, c'est les conditions de l'Afrique. Jean-Roi arrive, on arrive dans un restaurant africain, on nous a mis là. Et on a commencé à... Ça mettait du temps, je voyais que Jean-Roi, il piaffait. Au bout d'un moment, il dit, mais dis donc, on a fait, ça fait, vous vous rendez compte, ça fait 40 minutes qu'on a fait la commande, la serveuse et les serveuses, ils nous passent comme ça, même pas un mot. J'ai dit, genre, oh, calme-toi, on n'est pas au champ d'honneur ici, hein, va doucement. Donc il était là, au bout d'une heure, enfin, un petit poulet arrive, mais c'était pour Abdourahmane Ouaberi, le Djiboutien. Donc genre, on voit passer un poulet qui arrive là-bas. Il dit, mais j'ai commandé des poulets. Je dis, ici, on sert, c'est comme le tiercé, mais dans le désordre. Donc, rassure-toi, le poulet est allé là-bas. Et comme par hasard, Jean-Ro était le dernier à être servi. Il a tapé du poing sur la table, je ne veux plus le manger. Il boude devant les serveuses. Et puis, il y a une serveuse qui arrive, il dit, mais le blanc, là, c'est quoi son problème? J'ai dit, mais il est mal. Mais il faut lui dire qu'il est en Afrique, on a tout le temps. Il dit, quand il va manger, il va aller où, à l'hôtel. Ben alors, mais qu'il se calme. Donc, on va le servir au moment venu. Donc, et puis on a calmé Jean-Ro. Finalement, le poulet est arrivé tel que c'était assaisonné. J'ai senti Jean-Ro, le sourire commencer à revenir. Il a desserré la chemise pour laisser passer. Il dit, finalement, ça valait la patience. J'ai dit, mais c'est comme ça, hein. Il faut jamais être pressé dans l'existence. Donc c'est cette sorte d'Afrique que je ne voudrais pas perdre. Et pour ne pas la perdre, j'essaye de capter les éléments les plus marquants, mais dont j'ai l'impression que ça risque de disparaître, parce que même les témoins ou les greffiers qui étaient censés récolter cette parole-là passent devant la réalité. Tellement ils sont émerveillés par les paillettes de la civilisation, ce qui nous offre, ce que j'appelle même la culture de micro-ondes. Ils vont fabriquer un livre rapidement parce que c'est dans l'air du temps et puis ils s'en vont. Moi, quand j'écris, je ne cherche pas à dire je vais écrire une histoire qui va vraiment fasciner les gens. Non, j'écris ce que je sais. J'écris l'univers dans lequel j'ai vécu. Je parle des choses qui sont à contre-courant. Je veux dire que s'ils veulent écrire des histoires qui vont, le machisme des uns, le féminisme des autres, les trucs comme ça, c'est dans l'air du temps, tout le monde. Mais à la fin, est-ce que vous l'avez écrit avec ce cœur qui est le vôtre, ou bien vous avez été le prisonnier d'une certaine époque, sachant que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas là demain? Les grandes fictions que nous avons lues, que ce soit Les Petits Princes, Les Cent Ans de Solitude, La Peste, L'Étranger, le cas des Dino Buzzati, ou je ne sais pas, la musique des Kawabata, c'est des choses qui sont restées parce qu'elles ont été intemporelles. Elles ont regardé leur époque au-dessus, et parfois, au moment où on a écrit ces choses, ça ne faisait pas l'unanimité. Mais c'est essentiel que nous ayons un discours africain fait aussi par les Africains. C'est pour ça que j'avais accepté d'aller au Collège de France. On pensait que je n'allais parler que de l'Afrique, mais là-bas, j'ai parlé de la littérature occidentale, de l'époque des expositions, des époques des découvertes.
C'était en
découvertes,
2016.
Ouais. Expédition, parce qu'il fallait d'abord lancer des expéditions.
C'était une leçon inaugurale.
Voilà, pour aller découvrir.
Il y avait beaucoup de monde.
1500, il y avait chaque fois dans la classe. Et donc, c'était plutôt l'illustration selon laquelle la littérature africaine écrite est née grâce ou à cause de la littérature occidentale. parce que l'Africain voulait aussi mettre un contre-discours à côté de ce qui avait déjà été écrit. Et j'expliquais à tout le monde qu'avant, la littérature africaine, c'était les Blancs qui le faisaient. Et on les séparait parce que vous aviez les écrivains français qui étaient là, et vous avez ces Blancs qui étaient allés dans les colonies et qui écrivaient des livres, et ils ne voulaient pas être mélangés dans la littérature française parce qu'ils avaient un certain prestige. Et ici, en France, on les appelait les écrivains africains. Ils étaient dans la littérature africaine. Et la littérature africaine, la nôtre, est arrivée au moment où on a commencé vraiment à analyser le fait colonial et à revendiquer vraiment une autre lecture du continent africain.
On est dans une société où les questions d'identité ou d'appartenance sont souvent très électriques. Et je trouve que vous arrivez vraiment à en parler de manière à la fois sans concession, parce que vous dites les choses. Vous rappelez voilà, la colonisation, les frontières imposées, la dépossession. Et en même temps, vous le dites sans d'un ton qui n'est jamais véhément ou... Comment vous vous positionnez
Ce n'est pas si simple parce que, en même temps, la démarche qui est la mienne est difficile aussi à faire comprendre aux gens qui ont ma couleur, aux gens qui viennent de ma civilisation. Parce que on est accoutumé plutôt à avoir un tempérament guerrier dans ce sens. Et si vous êtes dans la modération, vous êtes tout de suite taxé comme.
De traître.
Oui. Beaucoup de gens, quand j'avais écrit Le Sanglot de l'homme noir, on avait dit qu'il a écrit pour les Blancs. Mais 10 ans après, je l'ai écrit en 2007, presque bientôt...
15 ans
après, les gens viennent me voir. « Ah, mais finalement, tu avais raison quand tu expliquais. » J'ai dit « Mais c'est simple, parce que je ne suis pas obligé de hurler pour me faire comprendre. Il y a une... sorte de citation que disait le prix Nobel de littérature Wole Soyinka de Nigeria. Le tigre ne se pavane pas en criant sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Parce que tous, oh, vous allez voir, nous allons changer la France. Calme-toi, change la France. Bondis, change la France. Tu arrives, boum. Et donc, parfois, ils sont étonnés en se disant, bon, comme je suis conciliant, ça va y aller, bon, il est vendu. Mais quand Macron me dit de venir travailler, je dis non, je ne suis pas là, parce que moi, j'ai une démarche qui est celle de libérer le discours en Afrique. Je ne peux pas venir faire la francophonie.
Alors, pour préciser, c'était une proposition que vous avez faite, le président de la République, de travailler sur la francophonie.
Voilà.
Et vous êtes très critique de ce qu'est la francophonie aujourd'hui.
Parce que moi, j'avais estimé que la francophonie, je ne pouvais pas travailler de la francophonie puisque c'est là que se réunissent tous les dictateurs aux côtés du président français. Alors que la France devrait d'abord commencer par dire à ces dictateurs de respecter leur peuple, d'arrêter de voler, de faire semblant de... À ces peuples, ils expliquent que si nous sommes malheureux, c'est à cause de la colonisation. Mais ça fait depuis 1960 qu'on nous a laissé les trucs tranquilles. On a des langues. Comment se fait-il que les plus riches, c'est toujours les présidents et leurs familles?
Il y a une instrumentalisation de la colonisation par les pouvoirs en place.
Ça a toujours été pareil. Je veux dire que quand tu veux pas que le peuple t'accuse de voleur, tu dis que si nous sommes si nous sommes malheureux, c'est parce qu'on a été colonisés, parce qu'on a subi l'esclavage. Bon, à un moment donné. Est-ce que nous n'avons pas les matières premières que nous devons travailler? Comment se fait-il que quand on crée des richesses, on va les placer encore en Europe, où déjà ils sont censés être pays développés? Comment se fait-il que, quand vous avez le pouvoir, tout le gouvernement, c'est une seule ethnie, et un président va rester 40 ans? En 40 ans, tu n'arrives pas à développer un pays, c'est un problème. On peut accepter, on va dire, bon, c'est une exception africaine, on peut être 40 ans, puisqu'on était dans les systèmes de la chefferie, mais il faut donner quelque chose qui puisse légitimer pourquoi vous avez fait 4 décennies et que votre population est devenue pauvre, les écoles n'existent plus, les cinémas n'existent plus, les ministres de la culture ne font que chaque année une cérémonie pour Miss Congo, par exemple, c'est tout. Et donc, les livres, non. On interdit les livres. Donc, il y a peut-être aussi cette dimension. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand je réagis, c'est dans ce sens que je le fais. Mais en même temps, je dis aux miens que quand on veut faire de la pédagogie, il faut aussi avoir ce langage de pédagogue où tu peux attaquer tout en étant aussi dans l'autocritique. Si les gens vont croire ce que je dis contre eux, mais c'est parce qu'ils ont vu aussi que quand je parle de moi, je ne me mets pas de fleurs en disant que nous, on n'a rien fait, on était tranquille, on a venu au royaume, il n'y avait pas de guerre en Afrique, il n'y avait jamais eu d'esclavage, c'était bien, le lion se promenait à côté des enfants, puis le blanc est arrivé pour arrêter tout ça. C'est quand même bizarre. Je vais dire aux gens, oui, il y avait aussi des guerres entre nous. Le roi Shaka Zulu, il s'est fondé sur l'écrasement d'une population. Il y a eu même un génocide, etc., etc. L'esclavage aussi avait commencé. Le monde arabe avait fait l'esclavage avant. Sauf que les Blancs sont venus industrialiser l'affaire. C'est-à-dire que l'esclavage du monde arabe précédait, puisqu'il y avait l'islamisation de l'Afrique. C'est pour ça, en Afrique de l'Ouest, il y a des musulmans, etc., etc. Mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au milieu là-bas. Il y avait déjà les propriétaires terriens européens qui avaient verrouillé un peu le chemin. Donc, c'est une pédagogie qu'il faut continuer à faire. Et je suis content de le refaire, mais cette fois-ci chez les Suisses, en novembre et en décembre, à l'école polytechnique. Ah. Les Suisses aussi, ils ont dit, c'est pas normal, vous le dites qu'aux Français, il faut venir dire ça à nous aussi, même si on n'a jamais colonisé
vous
les
gens. Vous allez donner des cours ou...
Oui, à l'école polytechnique, oui. D'accord. Ils voulaient que je reste un an, mais j'ai tout regroupé en deux mois. Je leur ai dit, mais je veux que j'enseigne, mais je dors en France. Voilà, quoi. Voilà. On ne sait jamais, hein.
Pas en Suisse, voilà.
Parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent des dictateurs, ouais. On ne sait jamais. Hein. Donc j'enseigne, mais avec quelqu'un qui est là-bas, parce que... Hein, on connaît l'histoire d'un prof qui allait enseigner en Suisse et qui n'est jamais revenu. Hein. Voilà. Mais au moins, à Bordeaux, vous êtes au courant. Hein. Si je ne reviens pas,
voilà,
il nous l'avait dit. Voilà.
Il est bientôt 19h. Donc
déjà
oui, alors juste une dernière question, mais qui est peut-être... je ne sais pas si vous aurez une réponse, mais oui. J'ai lu que vous aviez des liens d'amitié avec Salman Rushdie.
Oui.
Ouais,
vous avez... d'amitié
d'amitié.
Que ah oui, bien sûr.
Vous avez des nouvelles
Oui, il s'est rétabli, mais c'était une attaque très forte, ce qui fait que ça laissera effectivement des séquelles à vie. Il n'a pas la vigueur de l'époque où on avait 30 ans. Hein. C'est quand même des gens qui ont attaqué quelqu'un qui avait déjà 75 ans. Donc, moi, mon souhait, c'est que j'aimerais bien qu'il ait le prix Nobel, comme ça, ça fait quelque chose.
C'est jeudi. C'est demain.
Ah, c'est demain,
on sera demain à 13h.
Bon, voilà.
Parfait. Alors, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette conversation. Merci. Et le plaisir, vous pouvez prolonger
merci.
En lisant le commerce des arrangés.
Merci. Merci à la maman. Merci.